18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche, 18h-20h sur l'antenne de Beurre FM. Beurre FM à travers ses quelques plus de 20 fréquences sur la bande FM. Le DAB+ qui est déployé un petit peu partout également en France. Tout cela, toutes ces fréquences, vous les retrouvez sur le www.beurrefm.net. Justement, notre site sert à ça aussi, c'est-à-dire à vous permettre d'écouter notre radio à travers le monde entier. Et bien entendu, les podcasts de nos émissions comme les Fou de sport que vous retrouvez en podcast qui est mise en ligne par mon collègue Nabil que je remercie par avance. Foot de sport, c'est aussi des fois où ce qu'on appelle les fameuses contraintes qui vous obligent à modifier un petit peu votre conducteur. Mais cela, on l'avait programmé depuis longtemps puisqu'à 19h, j'aurai la chance de recevoir un champion UFC. Vous savez, ce sont ces fameux sports de combat ou full contact où quasiment tous les coups sont permis. Mon invité s'appelle Léon Derek ou Derek Léon. En tous les cas, il sera là à 19h. On parlera de son parcours, mais également de tout ce qu'il fait à travers son sport, mais également son engagement auprès des jeunes. C'est très important ça, tout ça pour ces sportifs de très haut niveau. La première heure, bien entendu, étant donné que coach est exceptionnellement absent, notre ami Boula est encore très loin également, du côté du Nord, si je m'abuse, du côté de Lille, et Sofiane également, et qui a sûrement été pris par le temps, par cette histoire du semi-marathon de Paris, le temps que les routes se dégagent. Donc bref, je me retrouve à vous présenter l'émission seul, mais durant cette première heure, donc je vais vous solliciter directement, puisque le premier sujet que nous allons aborder concerne forcément la nomination du nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie, Monsieur Vladimir Petkovic. Je vous demanderai de me dire ce que vous pensez, c'est-à-dire vos réactions du côté du Standard au 01 53 48 3000 et dès maintenant d'ailleurs. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le bosno-serbe pourrait nous, et suisse aussi, puisqu'il est suisse également, pourrait apporter à l'équipe d'Algérie. On le sentait arriver depuis quelques semaines, c'est-à-dire grosso modo, on s'est dit, est-ce que c'est lui, est-ce que ce ne sera pas lui? Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Petkovic, va prendre en charge la nouvelle sélection, enfin la nouvelle, puisqu'il y aura sûrement un peu de ménage dans le groupe. Mais ce qu'il faut retenir de cette nomination, pour une fois, on a voulu nous faire croire que il y a un secret dans les négociations, mais comme on dit, ça fuite toujours au niveau déjà du salaire, mais aussi au niveau des objectifs qui sont fixés pour Monsieur Petkovic. Bien entendu, il y a la qualif à la prochaine CAN au Maroc avec objectif à minima quart de finale, mais surtout cette qualif à la Coupe du Monde. Je vous rappelle que il arrive au moment même où, au sein de la sélection algérienne, il va y avoir un tournoi là-bas pendant le mois de mars. C'est ce qu'on appelle cette fameuse fenêtre FIFA. La fédération l'exploite pour combler ce trou et essayer de créer une première homogénéité au sein de la nouvelle équipe d'Algérie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Qu'est-ce que vous pensez également de cette nomination? Bien entendu, ça veut dire que si derrière cette nomination, il y a eu un accord, sûrement, avec Jamel Belmadi, car je ne pense pas que M. Petkovic ait pu signer si derrière il y avait toujours ce nom des engagements de l'ex-sélectionneur, à savoir Jamel Belmadi. Donc voilà, c'est la donne qu'on peut donner à cette heure-ci. Mais ce qui est certain, même d'après tout ce qu'on a pu suivre durant cette semaine, Jamel Belmadi bien entendu, n'a toujours pas parlé. Je pense qu'il a dû trouver un accord avec le patron de la Fédé, à savoir Monsieur Walid Saadi. Mais ce que je constate aujourd'hui, et j'aimerais bien aussi que cela se fasse, c'est dire réellement ce qui s'est passé, pourquoi ça a traîné. Et maintenant, le problème, c'est que Vladimir Petkovic ne connaît pas forcément le groupe. Ça veut dire qu'il sera assisté d'un adjoint algérien. Et j'irai même plus loin, on va lui donner probablement ce qu'on appelle une liste. À charge aussi pour lui de vérifier sur le terrain. La différence, c'est que vous connaissez la mentalité slave, c'est des gens qui sont très froids. D'ailleurs, regardez bien la position de ces entraîneurs issus de l'ex-bloc de l'Est, principalement de l'ex-Yougoslavie. Ils sont très froids, ils sont pas du tout souriants, ils sont pas expressifs ni expansifs non plus. Donc c'est peut-être aussi un bien pour cette équipe d'Algérie que tout le monde connaît par le côté fragilité mentale. C'est très important également de le dire, donc le mental. Alors voici quand même maintenant quelques éléments que nous espérons vous apporter dans cette émission, surtout cette première partie d'émission. Donc, alors ce qui va se passer maintenant, c'est que la leçon a été retenue quand même par la fédération sur ses engagements longue durée sans objectif, en tous les cas. Visiblement, c'est ce qui s'est passé avec l'ex-sélectionneur Jamel Belmadi, mais je tiens à préciser que ce n'est pas la faute de Jamel, loin de là, puisqu'on lui avait proposé un contrat, bien entendu, il n'allait pas refuser un engagement jusqu'en 2026.
Jusqu'à 20h, Foot de Sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Et forcément, qui dit nouveau sélectionneur, peut-être, je dis bien, peut-être, nouvelle tête au sein du groupe. Vous le savez, pardon, j'essaie de me mettre dans une position à peu près confortable. Ce qui est certain, c'est que en matière de sélection, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faut du renouvellement. C'est vrai qu'avec le coach, d'ailleurs dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais bon, il y a des impératifs pour lesquels on ne peut rien faire. Donc ça fait longtemps qu'on avait parlé de ce renouvellement. Au moment où l'équipe d'Algérie avait gagné cette fameuse CAN, c'est-à-dire en 2019. À ce moment-là, certains joueurs commençaient à être un petit peu en déclin. Mais derrière, lorsque Jamal, à mon avis, peut-être qu'il voulait faire plaisir à ce groupe qui a été champion d'Afrique, il voulait avec ce groupe aller en Coupe du Monde. Ben à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'échec, on commençait à renouveler, mais peut-être que c'était un peu tard. Il y a eu le cas de beaucoup de joueurs. Pourquoi Boudaoui était remplaçant en 2019, 2024, il est toujours remplaçant. Donc ce sont des questions également que l'on s'est tous posées par rapport à ce garçon. Il y a aussi peut-être ce manque de prospection pour essayer de trouver les bons défenseurs. Je pense que peut-être que l'erreur de Jamal, elle était là, à savoir, il avait fait confiance à un groupe et ce groupe n'a pas trop bougé. Et on l'a vu lors de sa dernière CAN d'ailleurs, le moment, ce côté panique du coach quand à la mi-temps il a fait sortir les nouveaux qu'il a fait jouer au dernier match contre la Mauritanie pour faire rentrer ceux qui sont titulaires habituellement. C'était le cas notamment de Belaïli et de Riyad Mahrez. Donc là on voit bien que le côté renouvellement et implication n'a pas été mis un peu plus tôt pour permettre tout simplement de pérenniser la sélection. Et si vous regardez bien aussi en matière de joueurs, on commence à reparler de garçons comme Yacine Adli au Milan AC, on parle aussi de Yacine Brahimi, enfin bref, il y a pas mal de joueurs auxquels beaucoup de gens y pensent, mais pour l'instant, nous sommes uniquement sur des hypothèses. Et qui dit hypothèse dit forcément du doute. Alors, le problème aussi, c'est qu'il doit faire le ménage par rapport à certains joueurs qui sont quasiment en fin de carrière, à d'autres également qui ont des comportements qui ne sont pas dignes d'être des comportements de sportifs de haut niveau. C'est notamment, surtout là, encore une fois, le cas de Youssef Belaïli, où lors de ce match de championnat qui s'est joué à Sétif, entre le Sétif et le Mouloudia, d'ailleurs, victoire de Sétif 1-0 au passage, eh bien, Youssef Belaïli, encore une fois, était impliqué dans une bagarre. Donc, c'est dire que aujourd'hui, il ne donne pas franchement l'exemple du footballeur qu'on peut admirer, etc. Et il se trouve que il avait commis beaucoup de gestes qui étaient à la limite de l'acceptable. Il y a eu cette fois-ci, comme on dit, la goutte a débordé le vase lors de ce match qui s'est déroulé à Sétif, où notamment l'arbitre, M. Saïdi, n'a pas hésité à brandir directement le carton rouge contre le joueur Youssef Belaïli. Encore, comme le disent certains, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce qu'on appelle tous ces écarts. Donc aujourd'hui, c'est peut-être aussi la fin de ce garçon, la fin d'un joueur qui ne peut plus apporter ce qu'il avait apporté à l'équipe nationale en 2019. Et aujourd'hui, il est temps de laisser la place à d'autres joueurs, à d'autres jeunes qui arrivent, qui sont très bons. Et puis aujourd'hui, il y a des garçons qui vont arriver, et je reste même persuadé que ces garçons-là vont faire le bonheur de la sélection.
Jusqu'à 20h, Foot de Sport sur Beurre FM.
Donc voilà. Alors étant donné que pour l'instant, je, comme dirait l'autre, je suis seul en attendant les invités, on va essayer peut-être de passer une. Allez, tenez, je vais passer tant qu'à faire. Ah. Oui, donc je vous assure que quand vous avez un bras et que vous devez remettre tout en place, eh ben c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est un peu compliqué pour moi, attention. Hein. On va essayer de vous envoyer une petite chanson avant la pub, histoire de récupérer un petit peu.
Jusqu'à 20h. Foot de Sport. Sur Beurre FM.
Allez, retour sur le plateau de Foot de Sport. Je vous l'ai dit, première heure consacrée principalement au football, et puis avec la nomination de Vladimir Petkovic, mais surtout avec cette nouvelle liste que tout le monde attend. Visiblement, ce fameux tournoi d'Alger, il restera encore l'Afrique du Sud et le Burundi. Bon, apparemment, on ne parle pas de la Bolivie, ni de l'Albanie. On ne sait pas trop. Hein. Donc l'essentiel, c'est que maintenant, nous le savons, il y a un nouveau sélectionneur. Et bonsoir Malik.
Bonsoir Mohand.
Ouais.
Bonsoir Nasser, c'est Lila.
Il est mort.
Ah, il est mort.
Oh,
c'est pas vrai ça.
Eh oui.
Bonjour à Sofiane.
Non, il est pareil, il y a un sagui à Hachou Hadim.
Ah, oui, il est pour le Hé.
Kif. Ah, attendez, le Nord.
Comment s'appelle Grand Bourgeois d'Avoine.
Ouais.
Et à Fontaine, spécialiste algérien de football. Ouais, bon. Mohand, c'est pas un entraîneur là. Ils ont désigné.
Oui.
C'est un Bosniak, c'est la même chose. Il est en Wakada, j'ai vu ses références. Il a entraîné Wakada Suisse.
Oui, il a été l'entraîneur de l'équipe de Suisse. Et rappelle-toi qu'ils sont arrivés, qui ont éliminé l'équipe de France au pénalty lors du dernier Euro. On te rappelle, en 8e de finale.
Voilà.
Oui,
voilà, plus la Bosnie, je pense, la Yougoslavie.
Oui.
Et Fsitoun, Bordeaux. Voilà. Il connaît quelques joueurs.
Oui.
Il connaît Adrien.
Oui, oui, oui.
Je connais mes doutes. Mes doutes qu'un joue à Bordeaux. Voir qu'il joue de, maintenant, il joue devant un club de chips.
D'accord.
Voilà.
Mais Malik, moi je pense.
Il faut quelqu'un d'intérim.
Ouais.
Il faut quelqu'un de l'intérim, il faut qu'il mette Karim Ziani ou Karim Matoui Jamat Bahi.
Oui, mais pour l'instant, Malik, on connaît même pas son staff technique. On ne sait pas qui sont ses adjoints, comment il va travailler. Parce que,
je sais pas.
Ben oui, là, franchement, tu sais que ce, tiens, même là, là, je viens de lire une info. Tu sais, elle concerne le pauvre Aïssa Mandi au moment où l'entraîneur lui a donné du temps de jeu pour reprendre la compétition. Eh ben, il est sorti au bout de 15 minutes parce qu'il s'est blessé. Donc, tu vois, même lui, il n'a pas eu de chance pour rencontrer le nouveau coach, quoi. D'ailleurs, l'avantage d'aller chercher quelqu'un comme ça en PA, des anciens Yougoslaves, c'est surtout par rapport à la défense. On voit bien qu'aujourd'hui...
Pardon. Même en Afrique.
Oui, oui. Donc là, parce que là, défensivement, on n'est pas fort. Hein. Voilà.
Est-ce que vous connaissez déjà l'entraîner l'équipe d'Afrique?
Oui, oui, bien sûr. Donc il est là récemment, il était à la CAN. Hein. Ouais.
Et quelle équipe d'Afrique il a entraîné déjà?
Ben écoute, je suis en train de rechercher. Comment on appelle ça son profil, c'est-à-dire voilà ce qu'il a exactement fait comme parcours. Et donc là je sais que pour l'instant il a fait la Lazio de Rome en Italie.
Oui,
voilà, il a fait la Suisse. Et tu sais qu'à Malik aujourd'hui, eh ben les comment on appelle ça, il y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché, hein. C'est difficile de les trouver, hein.
Laurent Blanc, il a refusé. Voilà.
Hein?
Voilà. Bon, à moi, il y a beaucoup de joueurs. Ouais. Il faut un staff technique en algérien.
Oui, oui.
Qu'on connaît la mentalité du joueur algérien.
Ouais.
Et qu'on connaît l'Afrique.
Ouais.
Voilà. Pour moi, il faut qu'il met Karim Ziani, ou bien Mathieu Smahi, Karim Matboul et tout ça.
Mm.
Voilà. Ou bien, il prononce ça, il est...
Ben écoute, moi pour la.
Nabil Siri, Hussein Lachio.
Ouais.
C'est le Marahou. Marahou, il connaît l'Afrique.
Ah ben oui.
Il a travaillé avec Franck Dumas.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc là, voilà. Alors pour l'instant.
Non, mais des joueurs, il y a des joueurs, Mahmoud. Il y a l'OCF, Hamid Adeladi. Il y a. Même Médori, il est bien. Barrelon, il est à la deuxième. Il faut essayer les joueurs, il faut tomber la chance. Il faut prendre quelques joueurs de l'OCAC comme Kirkland l'a fait faillite.
Ouais, tu sais.
Voilà.
Malik, là.
Doré. Il y a d'autres qui jouent au Canada. On ne sait jamais quand on connaît venir.
Écoute, le problème, voilà, c'est que lui, il arrive là. Ça y est, là. C'est normalement, là, la semaine prochaine, il est. Même peut-être demain ou après-demain, il est sur Alger.
Oui, c'est vrai. C'est voilà. aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Donc, il va commencer maintenant son travail. Et on va voir, hein, ce qui est sûr, si lui il a signé son contrat, c'est parce que pour moi derrière il y a eu quand même une entente avec Jamel Belmadi, parce que s'il n'y a pas eu d'accord, que si Jamel par exemple n'avait pas dit OK, je ne pense pas, j'en suis même certain que Vladimir Petkovic aurait signé. Et il a signé parce que il avait les garanties que avec Jamal, ça y est, c'est fini, quoi. Voilà.
C'est... Ouais, non, Jamal, c'est fini, Jamal. Ouais. C'est pas le cas de Jacques Jamal. Mmh. Il a fait des gars. Mmh. Et bon, c'est vrai. Il a amené la Coupe d'Afrique. Saha. J'ai rien à proposer de Belmadi. Comment il est arrivé à la Coupe du Monde, ils sont qualifiés. Premier tour au Cameroun. Nous sommes revenus en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi ça?
Ah, oui.
Il a fait jouer la même Slimani, Mahrez, Blaine et Boudjina. Si je vois là, il faut les quartiers. Il faut aller, je veux une génération.
Ah, bah ça y est.
Boudjina, il faut laisser.
Non mais il se bat quand même, ce garçon. Oui, oui, oui.
Voilà, bouge un libre, hein. Attention.
Non mais et maintenant.
Il faut aller jouer un peu de local qui est expérience avant s'entraîner tout ça.
Alors juste voilà. Amal, une précision, c'est que Monsieur Petković n'a jamais entraîné en Afrique, hein, puisque c'était beaucoup plus les clubs comme Bordeaux. Il y a eu la Suisse, bien sûr. Alors attention, il est resté entraîneur de l'équipe de Suisse de 2014 à 2021 quand même. Hein, voilà.
Il a entraîné même les FC Toon en Suisse. Attention.
Hein. FC Toon. Oui.
Voilà. Donc, voilà.
Ok, Malik.
Il y a des joueurs à Mohan, il y a notre joueur qui joue à la Hollande, Vicky Sarim, Anis Hadj Moussa. Un vrai défenseur.
Ouais.
Voilà.
Parce que de toute façon, là, lui.
Allez, bon courage. Je passe de l'autre côté à Nawal. Il faut qu'il rentre urgence en France. Il n'y a rien à faire à tout ça.
Ah, ben bah, écoute.
Voilà. Ok, non, c'est Malik. Hein. Donc, je t'appelle tout ça et tout ça.
Ok, voilà. Malik, s'arrête. Oui, merci.
Allez, ouais. À l'urgence.
Merci.
Ah
ouais. Eh oui, donc il y tient à Noël. Bonsoir, bienvenue.
Salam Mohan, comment vas-tu?
Ça va.
Ça va, tu vas bien?
Alors, je ne reconnais pas la voix.
Ah, tu ne reconnais pas la voix?
Non.
Ouais, c'est Sofiane.
Ah, mon collègue?
Ouais, on va dire ça comme ça.
Ouais, tu peux le dire comme ça. T'as pas été bloqué par la circulation, Sofiane?
Ah, c'est une catastrophe.
Bah oui, j'ai compris. Tu sais, quand j'ai vu... quand j'ai vu... ah, j'ai dit non. Sofiane, il est pris par les beaux gens, c'est pas possible.
Ah, alors en fait, si tu veux, pour expliquer à nos auditeurs, il y a le marathon de Paris, là.
Oui, c'est ça.
Donc tout l'aide de la circulation, c'est incirculable.
Non, mais attends, mais le marathon de Paris, ils l'ont fait ce matin. Moi, la vérité, je le dis à l'antenne, quand je suis arrivé sur Paris, déjà, pour rentrer sur le secteur de Bercy, c'était fermé, il était 10h du matin. J'étais à 2 minutes de la radio, j'y ai mis 20 minutes pour faire le grand détour. Voilà.
Ouais, mais parce que, en fait, ça, c'est un autre sujet, mais en termes d'organisation en France, on n'est pas bon du tout sur ces événements-là, tu vois. Ouais. On parle d'un petit événement.
Oui, attention, c'est même pas le marathon, c'est le semi, c'est les 20 km de Paris, il faut le préciser.
Voilà. Merci madame Hidalgo.
Oui. Bon, ouais. Sofiane, j'ai la chance de t'avoir là au téléphone. Eh ben, tu vas me parler de cette nomination.
Bah écoute, moi je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite.
Oui.
Pour moi c'est une catastrophe.
Ah.
Pour moi, non mais il faut se mouiller.
Oui, bien sûr.
Écoute, j'ai pas d'ego sur ce sujet.
Ouais.
C'est-à-dire que si demain Petković, il arrache tout, on va à la Coupe du Monde, on fait une super Coupe du Monde, on gagne la CAN au Maroc. Et que je me suis trompé, je suis content de m'être trompé. Ouais. À l'instant T, avec les éléments que j'ai, je pense que c'est un très mauvais choix.
Oui.
Pourquoi? Parce que le problème de Petković, c'est que concrètement, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? Il ne connaît pas l'Afrique?
Non, du tout.
Il ne connaît pas l'Algérie?
Ouais.
Et ça n'a pas été un grand entraîneur en club, il n'a pas eu des résultats probants. Maintenant, il a eu des résultats où? Il a eu des petits résultats avec l'équipe de Suisse.
C'est ça.
D'accord? Maintenant, il faut expliquer un petit peu. Parce que l'équipe de Suisse, qu'est-ce que c'est l'équipe de Suisse? L'équipe de Suisse, c'est en gros une équipe nationale, allemande, t'as beaucoup d'allemands, francophones, italophones un petit peu.
C'est ça.
Et avec une immigration un peu africaine, mais surtout des balkaniques. Et lui, il est issu de cette immigration balkanique.
Tout à fait.
Toute proportion gardée, c'est un petit peu comme si Nasser Sanjak, coach Nasser qui est pas là,
oui.
Entraîner l'équipe de France ou Claude Makélélé ou Patrick Vieira, c'est-à-dire des gens qui connaissent le contexte français, et notamment parce que le football c'est un sport populaire, c'est un sport des quartiers, ces gens-là qui connaissent cet aspect-là du football se mettent à la tête de l'équipe nationale et ont des résultats. Bah, Petković c'est un peu ça à l'échelle de la Suisse. Voilà, c'est un Croate de Bosnie qui a grandi en Suisse, qui est naturalisé suisse, il connaît un petit peu le contexte suisse, les tendances qu'il y a dans le pays, il prend la sélection et il a eu des résultats. Bon, il fait la finale à l'Euro, la Suisse fait la Coupe du Monde, bon, il a des petits résultats. Le problème, c'est que là, on le ramène en équipe d'Algérie, bonhomme, moi, ça me rappelle la nomination de Rajevac.
Oui, ah, je me souviens, ouais.
Qui parle pas en mode français, qui connaît rien au contexte algérien, et moi, je pense que c'est une erreur, on va s'en mordre avec les autres, d'autant plus que là, on n'avait pas de... Bon.
Ouais, c'est vrai, Sofiane, j'ai son parcours devant les yeux en tant qu'entraîneur. Quand il a commencé, il a entraîné que des clubs suisses. Enfin, il est sorti deux fois à l'extérieur, trois fois plus tôt. Quand il a entraîné l'équipe de Samsunspor en Turquie en 2011-2012, avant de revenir en Suisse. pour une année au FC Sion. Il repart à la Lazio de Rome une année avant de revenir aller en équipe nationale de Suisse pendant 7 ans, en 2014-2021. Il a juste après, il a fait Bordeaux, et après Bordeaux, ben maintenant, il y a eu un blanc dans sa carrière avant de venir en Algérie. Voilà, puisque il y a eu quand même un trou.
Ben Bordeaux, faut pas oublier ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est qu'il prend l'équipe. Alors à sa décharge, le club était mal géré, le club allait en Ligue 2, mais il prend l'équipe.
Ouais.
En bas du classement, l'équipe elle descend, et lui derrière réclame une indemnité.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'entraîneur, franchement, c'est pas du haut de gamme.
Ouais.
Du tout. Donc t'as pris un étranger, même pas haut de gamme. Et moi, ce qui m'inquiète encore une fois, c'est que le mec ne connaît pas le contexte. Faut savoir qu'une sélection nationale, elle est traversée par des contradictions.
Ouais.
Elle est traversée par des conflits, par des haines, pour parler clairement. Parce qu'en Algérie, en Algérie, peut-être plus qu'ailleurs, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine entre les différents éléments du pays.
Mm-hmm.
Voilà. C'est des choses un peu tabou, mais c'est factuel.
Ouais. Tu vois ? Non, mais c'est une réalité. C'est la réalité de la sélection algérienne. Il y a toujours eu ces querelles internes qui font que on n'avance pas. Hein.
Tu vois, par exemple, Nasser, tu prends l'équipe d'Espagne, elle avait pendant un moment les conflits entre les Catalans et les Madridistes.
Exact.
Tu vois, mm-hmm. ils t'ont mis un sélectionneur à un moment donné qui a réussi à régler ça. Et en fait, l'idée du sélectionneur, c'est justement comment je vais faire pour réussir à faire marcher l'équipe nationale avec des tendances contradictoires,
ouais,
et des joueurs de différentes cultures.
Exactement.
Le Maroc, par exemple, qui fait sa demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc a toujours eu ce problème-là avec les Arabes, les Schleur, les Hollandais, les Espagnols et les...
Et les Français, les Allemands, les Belges, oui, oui. Je suis d'accord, oui.
Tabaïd qui a des réussites, puis t'as les Grecs qui derrière, voilà, son histoire réussie. En Afrique, t'as beaucoup ces choses-là. Par exemple, MRS Faye qu'on a eu la semaine dernière, la Côte d'Ivoire.
Ouais.
T'as le Nord, c'est des Djoulas, c'est des gens d'origine malienne, parfois du Burkina,
ouais,
qui sont musulmans, le Sud, c'est chrétien. Et l'entraîneur, il doit composer avec ces composants-là. Mais pour qu'ils puissent composer, c'est qu'ils connaissent déjà les composants.
Exact. Exact.
Tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, le Petkovic, là, il connaît pas.
Ouais.
Il sait pas la réalité du footballeur français, algérien, qui a grandi en France, la réalité des banlieues. Il connaît pas la réalité de l'Algérien du bled. Comment il va faire fonctionner cette équipe-là? Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Bah, il arrive en terrain inconnu pour lui. Hein. Oui.
Et moi, le problème, c'est que là, on a des échéances qui sont super importantes, puisqu'on a deux grosses échéances tout de suite qui arrivent,
ouais,
et qu'on peut pas se permettre de faire encore un coup d'essai. Voilà, parce qu'on est les champions du monde de licencier des sélectionneurs après un match ou deux. On ne peut pas se le permettre.
Oui.
Et moi, j'ai l'impression qu'on va encore perdre du temps sur notre tableau de marche avec une génération qui est jeune et qui a besoin déjà d'un entraîneur qui va les installer.
Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs, Sofiane, non ?
Ouais, moi, personnellement, je suis assez sceptique et inquiet quant à ce choix. Et je te dis franchement, les entraîneurs que j'aurais mis en Algérie, il y a Karim Ziani. Il y a même un mec comme Majid Bouguerra qui a peut-être pas l'étoffe, mais au moins c'est l'Algérie.
Et en plus, il connaît la plupart des garçons.
Il connaît un petit peu. Ah, ouais. J'aurais préféré ce genre de choix-là, tu vois.
Ouais.
Moi, personnellement, je dis franchement, je ne l'ai pas dit. Moi, je militais pour Nasser, je dis franchement.
Oui.
Qui a la soixantaine, qui a un homme du Romal, qui a fait son expérience.
Absolument. Oui.
Et qui connaît les Français, les Algériens de France et les Algériens d'Algérie. J'aurais milité pour Nasser, voilà. Maintenant, bon. Ça s'est pas fait, on s'est orienté vers
Petkovic.
Moi, je dis, ça pue.
Ouais, ouais, mais attends, je suis d'accord avec toi, Sofiane. En gros, c'est un gros pari, un gros risque. Alors, pour l'instant, il y a ce fameux tournoi-là du Ramadan, mais qui ne va pas nous apprendre grand-chose. Aujourd'hui, le plus important, Sofiane, et tu vas être d'accord avec moi, ce sont ces fameuses dates du mois de juin prochain. Ces deux matchs de Coupe du Monde. Là, on va voir réellement la patte du coach. Hein, soit, comme dirait l'autre, ça passe ou ça casse, quoi.
Bah, exactement ça. Rappelle-toi, il y a un précédent. C'est avec ce genre d'entraîneur, c'était Rajvac en 2016 quand on le prend.
Oui.
On prend Rajvac qui succède à Gourcuff. Il prend l'équipe et on fait match nul à domicile contre le Cameroun dans la phase éliminatoire. Et tout de suite, on sent que ça passe pas.
Ouais.
Ça passe pas parce que l'entraîneur parle pas français, parle pas l'anglais. C'est un Serbe qui a entraîné le Ghana à l'époque en 2010 du temps du grand Ghana. Et il se retrouve là à Alger un peu comme ça par hasard. Et moi, j'ai bien peur que malheureusement, quelqu'un comme Petkovic, il arrive, il arrive de son chalet là-bas en Suisse, sous ses bros, ses profs. Il va se retrouver à Sidi Moussa dans le contexte algérien.
Ouais.
Moi, je dis, je suis inquiet.
Ouais, ouais.
Je suis inquiet. On va voir l'élite, on va voir ce qui va se passer, mais moi, je suis inquiet. Et d'autant plus, il y a aussi un élément. Au-delà de l'inquiétude du choix, moi, ce choix-là, il me révolte aussi parce que pour moi, je pensais qu'on avait justement été les pionniers dans le fait de prendre un enfant du pays.
Ouais.
Et là, on se retrouve à ressusciter les pères blancs, les mecs qui viennent d'Europe.
Alors que justement aujourd'hui l'Afrique est en train de développer ce qu'on appelle une espèce de lobbying des binationaux sur il y a aujourd'hui beaucoup de sélections africaines qui sont dirigées par d'anciens pro-africains qui ont passé leur diplôme, qui rentrent en Afrique et qui dirigent les sélections. Nous on a commencé avec Jamel et puis on fait machine arrière là, franchement je suis d'accord avec toi là. Ouais, c'est terrible ça.
Le malheur, il est là, Le malheur, c'est que t'as toute l'Afrique qui a suivi notre exemple et c'est nous qui tournons le dos à notre propre exemple.
Ouais. Et regarde, tu prends le cas du Maroc. Malgré l'élimination, eh ben, Walid El-Gharaghi est resté en poste.
Oui, mais regarde, Walid El-Gharaghi, il reste en poste. Après, ils savent très bien les Marocains qu'il y a une compétition à préparer l'année prochaine qui sera chez eux.
Oui.
Je veux dire, à choisir, moi, je préfère sortir de la canne celle-ci et préparer correctement celle qui arrive.
Oui.
Plutôt que l'inverse. À domicile, c'est là qu'il y aura la vraie pression.
Exactement.
C'est pour ça que moi, je relativise notre dernier échec à la CAN en disant que de toute façon, il y avait une CAN l'année prochaine.
Oui.
Le problème, c'est que encore une fois, quand on prend les bonnes décisions après un échec, on a de quoi être optimiste derrière.
Ouais.
Moi, j'espérais vraiment qu'on prenne une bonne décision. Le problème, c'est que moi, par certaines indiscrétions, je sais que certains entraîneurs algériens ont postulé auprès de la fédération.
Oui.
Et n'ont pas reçu de réponse.
Ah.
Et moi, ce qui m'embête, ça me donne l'impression qu'on fait des courbettes aux étrangers,
oui.
Qu'on se déplace, qu'on leur déroule le tapis rouge et qu'on leur donne les clés de la sélection.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'une sélection nationale? C'est la représentation, c'est l'émanation,
oui.
de la nation algérienne. On leur donne des clés à ces gens-là, alors que c'est des gens qui ne calculent même pas, qui ne connaissent même pas la réalité de notre football, de notre pays, notre réalité sociologique.
Ouais.
Et moi, je suis vraiment déçu du choix du président de la PAF.
Mais pire que ça, Sofiane, moi, quand j'ai lu la shortlist, dans la shortlist, il n'y avait pas d'entraîneur algérien.
Exactement.
Ouais. C'est encore plus insultant pour tous les techniciens algériens.
C'est insultant pour les techniciens algériens, pour les anciens joueurs.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, bon, que les noms passent pas l'unanimité, mais regarde, un mec comme Regragui, c'est un ancien joueur de la sélection marocaine, c'était pas un grand joueur,
oui.
Mais c'était un bon joueur de la sélection marocaine, tu vois.
Oui.
Et moi, je comprends pas pourquoi on s'est pas orienté vers ce genre de choix-là, par défaut, à la limite, tu vois.
Oui.
Mais parce que là, il y a là de deux choses l'une. Soit Petkovic y réussit, et encore une fois, moi, je serais le premier à dire que je me suis trompé.
Oui.
Je serais content de m'être trompé, il n'y a pas de problème. Soit il échoue, et qu'est-ce qui se passe derrière? On va aller ressusciter Belmadi.
Ouais. Merci. Ouais. Merci Sofiane pour ce témoignage. En tout cas, bravo. Je sais que pour ce soir, c'est pas évident. En tout cas, t'inquiète pas que là, en deuxième heure, on est sur de l'UFC avec un champion. Tu dois connaître, s'appelle Léon Derek, qui sera avec moi à 19h. En tout cas, ce témoignage est. C'est ce que j'attendais. Et puis, ben, la circulation a fait en sorte que, malheureusement, t'es pas sur le plateau. C'est pas grave, en tout cas. En tout cas, Sofiane sache aussi une chose, donc je le dis aussi à nos auditeurs qu'ils le sachent, c'est que dimanche prochain, il y aura pas foot de sport, puisque dès 18h, on sera pour l'annonce en principe du Ramadan le lendemain. Vous allez retrouver Philippe, Abdelali et toute l'équipe sur l'antenne de BRFM, peut-être même un petit peu avant 18h. Ensuite, on verra comment on va faire cette émission de foot du sport, mais pas ce premier dimanche où on va annoncer le Ramadan. Voilà, mon cher Sofiane.
Merci, Mohamed.
Merci. Voilà, donc juste après, je reviens du côté du standard, le temps de marquer une seconde pause. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Allez, troisième et dernière partie de cette première heure d'émission. On va repartir du côté du standard. Alors, en principe, cet appel, c'est Mahalez, puisque je reconnais à peu près maintenant les numéros. Bonsoir, Mahalez.
Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, coach.
Ah ouais.
Justement.
Arraïch, Arraïch, Mesfelbled.
Arraïch, Mesfelbled.
Bah oui.
Partout. Pourquoi on nous a pas donné un espoir que c'est toi le coach, le sélectionneur?
Ben écoute, c'est ce que t'as entendu d'ailleurs, Sofiane. Dans,
je vais revenir, je suis pas tout d'accord avec Sofiane sur les points.
Bien sûr.
Alors, c'est plus seul la Mohamed ou il y a quelqu'un avec toi?
De quoi?
Sur la radio.
J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Mahalez, là.
Il y a quelqu'un avec toi sur le plateau ou pas?
Ah non, non, je suis tout seul là.
Tout seul, ben on passe le bonjour à Nawel du côté.
Oui, oui, mais. Ouais.
Ouais, on passe le bonjour aux anciens comme au moins Algérien et tout ça.
Bien sûr.
Bah, moi, je rejoins tout à fait Sofiane. C'est un coach qui n'a pas d'expérience. La langue, ça joue énormément.
Ah, ça va être un blocage, ça. Ouais.
Ça va être bloqué. C'est un entraîneur qui, du côté de l'Algérie, certains médias plateaux vont nous rendre. C'est un coach. Mondial, c'est pas un coach mondial.
Non, non, ben, moi
je. Entraîner la Suisse et aller entraîner l'Algérie, c'est pas la même condition. La Suisse, c'est pas une enfant qui a de pression. Aujourd'hui, sans qu'on parle la Suisse, en termes de médiatisation avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui est plus médiatisée que la Suisse, pour dire la vérité.
Oui.
La Suisse, les nations les vraiment où il y a la pression, c'est plus l'Espagne, l'Italie. Oui. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, peut-être un peu la Belgique, mais la Suisse, pour moi, c'est pas une nation football qu'un grand championnat ou une nation football que médiatique.
Oui, ils font ce qu'on appelle. Voilà, on va dire à Mahrez, ils font des coups. Voilà, c'est une équipe qui fait des coups. Bah, voilà. Surtout quand elle avait éliminé l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro. Oui.
Et je reviens à ça, moi, Mohamed aussi.
Ouais.
Oui, d'accord, il a éliminé, il a battu la France et tout ça. Mais on oublie de dire, en 2014, il a affronté la France, il s'est mangé un 5-2.
Oui.
Il a affronté la France en 2016, il a joué bloc bas 0-0.
Oui.
Il a été. Donc, c'est juste il a été jusqu'au huitième de finale. Il a été éliminé.
C'est ça, oui, ouais, ouais.
Son seul parcours, c'est 2014 en quart. En 2018, il a fait quoi en Coupe du Monde Si c'est un grand coach, il est pas fou par la Lazio. Ouais. C'est un grand club en Italie.
C'est pas un petit club la Lazio de Rome. On est d'accord.
Voilà.
Ouais.
Si c'est un grand coach, il reste sur le long terme. Ok, il a gagné Coupe d'Italie, c'est pas suffisant dans une carrière. Un entraîneur, comment on peut reconnaître sa grandeur pour un sélectionneur? C'est les titres.
Ah oui, les titres parlent pour toi. Ouais.
Moi, quand je qualifie en Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Moi, je vais répondre à certains médias qui sont nous inventés. Ouais, il y a le tournoi, le grand tournoi demain. Mais excusez-moi, le tournoi demain, c'est qui? La Bolivie, l'Andorre, principauté d'Andorre, non?
Attends, en fait, apparemment, pour toutes les équipes, c'est pas définitif. Là, pour l'instant, on nous a ressorti toujours l'Afrique du Sud, bien sûr, et maintenant le Burundi. Donc, est-ce que la Bolivie a déclaré forfait? En fait, on n'en sait rien. Pas. Ouais. Là, je.
Que ce soit Burundi, Bolivie. Allez, on va dire un peu l'Afrique du Sud.
Ouais.
Que ça peut déranger et encore.
Oui.
Même s'ils ont été venus d'Afrique. Je n'enlève pas leur mine. Mais. L'Andorre, principauté, quoi qu'elle a gagné un seul match dans sa vie, ils se retomberont, ils se relèveront, ils ne vont jamais regagner un autre. La Bolivie ou le Burundi, ils jouent face à ces équipes-là en main. Ils perdent.
Oui.
C'est ça, mon plus grand moyen. Il faut repréparer la résiliation du grand bras. Ça veut dire là, tu vas comprendre, l'homme, il n'est pas fait pour réussir. Mais d'accord.
Bah, oui.
Moi, je sais bien, beau, on nous dit, ouais, mais il faut le soutenir, il faut laisser travailler. Mais il n'y a pas de souci.
Oui,
aujourd'hui,
oui.
On est en train de parler d'un sélectionneur, il n'a pas d'expérience. Moi, je reviens sur la blémadiste que tu as dit, tant que ça s'arranger.
Ouais.
Moi, j'ai des buts qui s'arrangent. Pourquoi, moi-même? Quand tu as une prise en fédération, il part par les tubes. Quand tu as une fédération,
oui.
Par des trois échecs, sur ces trois échecs, les deux concernés, ils n'étaient pas à la tête de cette fédération, je vois pas comment parler. C'est plus de
beurre qu'Afrique du Sud. Ouais, Mahrez, non, quand je dis, non, ce que je voulais dire, c'est que
Non, attends, je parle de cette fédération aussi.
Oui. Comment parce que l'accord, si, S'il n'y a pas eu une entente sur les indemnités de Jamel Belmadi, je ne pense pas que la fédération aurait pris le risque de signer, de faire signer Petkovic, parce que Jamel, aussitôt, ouais, il aurait directement fait monter le dossier à la FIFA. Je ne pense pas. À mon avis.
Dernière nouvelle. Deux personnes comme crédibles.
Oui.
C'est M. Farid Mataoui.
Oui.
Et M. Boutamine, qui est au Qatar. D'après leurs ententes,
oui.
Belmadi va aller à la FIFA. Et quand il va faire une déclaration dans les jours à venir, on va voir ce qu'il y en est.
Ouais.
Si c'est ça, excuse-moi, ça, rien n'a été arrangé.
Oui.
Je me méfie avec elle.
Ouais.
Parce que comme elle bafoue les lois et les droits, parce... j'ai pas l'impression qu'ils sont entendus. Hein.
Parce que y a... comment tu peux faire signer un entraîneur alors que l'autre entraîneur n'a pas rompu officiellement, c'est pour l'instant on n'a pas le document qui atteste que vraiment il y a eu une séparation entre la FAF et Jamel Belmadi. Ça on l'a pas, et ça veut dire que là Jamel il peut attaquer à tout moment. Ben oui.
Ouais, je suis d'accord. Quand tu vois les choses. Même là, sur le truc de la fédération,
oui,
on n'a jamais parlé de licenciement encore de Belmadi.
Oui.
On a parlé que de Petrovic.
Oui.
C'est pas lui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Autre chose que je vais revenir, Mohamed, si tu me permets,
oui,
c'est que aussi sur cette fédération, c'est que, regarde, dans le contrat, on entend parler, elle dit, on ne va rien lui demander de plus. Mais on va en huitième de finale de Coupe d'Afrique. Alors comment vous m'expliquez sur le contrat, Belmadi, c'est grave qu'on n'a pas fait un objectif en mars demi-finale. Et ils ont même dit, demi-finale, c'est un échec, c'est une finale.
Oui.
Et lui, on va se conduire la gérer, ça fait tout bon. Et là, avec celui-là, ah non, en huitième de finale, c'est suffisant.
Ouais. Non, mais non, huitième de finale, ouais, c'est...
C'est victoire, tu vois.
Ouais, ouais. Attends.
Et cette fédération, elle est bizarre.
De toute façon, Mahalez, moi je pense sincèrement que là, je sais que que ce soit le nouveau coach ou même l'équipe est attendue au tournant, dans ce mini tournoi là du Ramadan. Ouais. Mais de toi à moi aujourd'hui, la priorité, ce sont les deux dates du mois de juin. Elles sont cruciales. Hein. Ce sont deux matchs de Coupe du Monde. Hein. Soit tu fais le plein, tu as un grand pas de qualif pour la Coupe du Monde. Soit tu trébuches, ça va pas.
Mais c'est là que je vais revenir, Mohamed.
Ouais.
Tu sais, Mohamed.
Ouais.
C'est pour ça, ces dates-là. Même moi, si je ne pas plus d'importance, mais si tu les perds pas, comment tu vas gagner la Guinée au mois de juin?
Ouais.
Là, t'es concurrent pour la qualif de la Coupe du Monde.
Ça, c'est autre chose, là. Ouais.
Et il y aura une créature, il y aura beaucoup de débats.
Ah, c'est sûr.
Et excuse-moi, Mohamed, est-ce qu'il faut parler de sélectionneur? Lui, c'est pas vraiment qui est chou. Il va tomber par terre, il va pleurer, il va nous tirer. C'est encore pas ça que je veux parler.
Oui.
C'est que tu fais le casque que t'as, ils ont fait avec Belmadi, qu'il a échoué la vérité, c'est autre chose. Mais le casque, il ne faut pas. Lui, il ne va pas gérer. Hein. On dit c'est un Bosnien, tout ça, mais il est plus suisse. Hein. Mm. Et je vais te dire, la Suisse, la FIFA, c'est la FIFA, il est juste à côté.
Oui. Bien sûr, tu sais que. Il faut pas oublier quand même qu'il est toujours en conflit avec les Girondins de Bordeaux, puisqu'il a parti d'ailleurs l'affaire devant le tribunal arbitral du sport en Suisse pour réclamer ses indemnités. Donc il sera sans pitié. D'ailleurs, apparemment,
Non mais
c'est même pas ça. C'est que lui, il a signé un contrat. Il te dit bon, écoutez, moi j'ai signé un contrat. Ben, peu importe. Il y a une durée. Il y a des indemnités, il faut les payer.
Au niveau de Thierry Colo,
ouais.
On a. Je pense qu'il a mis le pacteur. Hein.
Il est, d'ailleurs, à un moment donné, ça parlait de 120 000 et il a poussé et jusqu'à ajouter apparemment 15 000 euros supplémentaires pour monter à 135 000 euros.
Si tu rajoutes les adjoints italiens, suisses, et d'autres, et plus de passagers qui vont prendre avec lui,
ouais.
Et sans parler qui, Quand je vais faire un résultat, il y aura un pour 2026. Oh là 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 là.
Non, mais à un moment donné, non, mais Mahrez, entre nous, à un moment donné, il va bien. Il va bien falloir prendre quand même. Oui, mais même. Il va bien, même dans son staff, il va bien falloir qu'il prenne quand même des Algériens qui connaissent les joueurs, qui connaissent la mentalité algérienne. Il peut pas se contenter que d'un staff purement qui ramène avec lui. Ça, à un moment donné, même avec les joueurs, ça va clasher. C'est pas possible.
Oui. Oui. Mais le problème, c'est que les Algériens qu'il va ramener, j'ai vu son staff, Nabil Nerim. On va dire que c'est un entraîneur en Algérie qui n'a pas. C'est un entraîneur, mais il n'a jamais fait des preuves précises.
Ouais.
Mais il travaille de son cœur. Mouchna, il travaille de son cœur.
Très bien, merci beaucoup.
C'est pas suffisant. Ouais. Il faut des entraîneurs avec une vraie expérience. Comme il y avait avec le staff de Vaïda et Lodic, la FAP.
Okay.
Et la dernière chose sur Belaïn et Mohamed.
Ouais, rappelez-moi, je dois envoyer. La pause là. Oui, vas-y sur Belaïli. De toute façon, ouais, khlas. Belaïli,
ouais. Mais c'est pour ça que je vais lancer un message sur lui.
Oui.
Il commence à me caver.
Non, mais t'es pas le seul. Hein. Ouais, non, mais c'est bon là. C'est le mauvais exemple aujourd'hui qu'il donne aux jeunes Algériens. Je pense maintenant que les dirigeants du Mouloudia doivent assumer leurs responsabilités.
Parce que là, on perd un match comme ça.
Ouais.
Même si on a raté des occasions, on a pu gagner et revenir. Avec son comportement.
Ouais.
Il nous met dans les choux.
C'est exactement
parce
ça.
Parce que si le CRP gagne les autres dates, et en plus on des matchs retard,
ouais.
Il y a le titre rendu. Hein.
Ouais, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Mahrez.
Merci, Mohamed, et bonne soirée.
Merci, bonne soirée également.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Tranquillement, avant de parler sport de combat, je prendrai encore deux appels des côtés du Standard. Bon, c'est vrai que cette nomination de Petkovic fait grincer des dents chez beaucoup de compatriotes algériens. Mais nous, ben écoutez, on est là pour faire le débat avec vous. Donc, sans plus attendre, allez, on repart du côté du Standard. Bon, allez, normalement, ce numéro, c'est Mourad. Comment il va?
Ça va très bien, chine.
Ah, ça va, comme le temps.
Normalement, ça va faire une émission spéciale, coach Petkovic.
Non, mais j'allais pas lui consacrer deux heures quand même, non.
Bah, si, apparemment, il y a plein d'appels, non?
Non, ça va, non. Il faut aussi garder un peu. Moi, j'ai besoin de respirer. Tu sais, il y a 15 jours. Quand j'ai programmé cette émission, je n'ai jamais pensé à Petkovic.
Ah, parce que moi, je te dis la vérité. Dès que tu prévois quelque chose d'autre, la secondaire, j'éteins le poste.
Ouais, ouais.
Je te dis la vérité. Hein.
Bon.
Il y a beaucoup d'Algériens comme moi.
Ouais, ouais, non, mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent.
Voilà, il n'y a pas de souci à moi.
Mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans le panneau. De temps en temps, il faut aussi redescendre sur terre.
Ouais. Je pense que les Algériens, c'est plus des fans de foot que de MMA. Quoi.
Ah, tu te trompes, il y a beaucoup plus de.
Ah,
ils y sont.
Je
ne
peux pas regarder ce sport, hein, en tout cas.
Je sais pourquoi, t'as peur.
Non, c'est du sport qui n'apporte rien, dangereux pour la santé.
Ah.
Il n'y a pas de suspense.
Ah,
je ne sais pas à quoi ça sert. Quoi. Personnellement, je n'irai jamais à mon fils d'aller faire de la boxe ou des combats comme ça.
Moi, quand je vois le nombre de gens de chez nous qui partent carrément passer des années là-bas en Thaïlande, tout ça, pour revenir encore plus fort qu'avant, regarde bien les statistiques.
Imagine, ta radio, c'est une radio commerciale.
Eh ben oui.
Donc, il y a du business.
Eh oui.
Je pense pas que les Algériens préfèrent entendre parler.
Ouais, non, mais attends. Il faut pas non plus que je sois.
Sofiane, on lui avait fait cette remarque une fois.
S'il te plaît, il faut pas que je sois non plus algérien à 100%. Non, je suis en France et je dois respecter la diversité, la pluralité.
Non, il n'y a pas de souci à moi.
Voilà. Bon, maintenant, maintenant, je t'écoute sur Petkovic.
Moi, juste une petite remarque à Kamel von Galeba. Je vais juste lui répondre par rapport à la semaine dernière.
Ah.
Le sélectionneur, on ne lui demande pas d'être de bonne famille.
Oui.
On lui demande d'avoir de la poigne. Si tu n'as pas la poigne, si tu ne te sens pas capable, tu ranges le tablier.
Oui.
Notamment après la CAN 1986 au Caire. Mmh. Il sait de quoi je parle.
Bon,
pour revenir au coach.
Oui, alors le nouveau, parce que maintenant.
Alors, déjà, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on a l'impression que nous sommes le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, une grande nation de football, donc on s'attend à avoir un grand sélectionneur. Jusqu'à preuve du contraire, Je vais même te prouver toutes les sélections qui ont performé en Coupe du Monde depuis les années 82 jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Le Cameroun en 90, c'est avec un entraîneur russe, un illustre inconnu.
Oui, mais allez, oui, mais allez.
Quart de finale.
Oui, mais moi, à l'époque, oui. À l'époque, on était encore sur, passe-moi l'expression, sur les entraîneurs mercenaires. Excuse-moi.
Non, mais attends, je vais dire.
Aujourd'hui, on a la chance quand même qu'en Afrique, il y a de plus en plus de d'anciens footballeurs qui prennent les sélections. Hein. Heureusement, d'ailleurs, c'est fini ce temps-là.
Le Sénégal.
Oui.
Le Sénégal avec Bruno Bétu.
Oui.
En 2002.
Oui.
Est-ce que Bruno Bétu, c'est un grand entraîneur?
Non.
C'est un grand sélectionneur. Est-ce qu'il connaissait l'Afrique?
Bruno Bétu.
Oui,
mais. Mais attends. Bruno Bétu, faut pas te tromper. Il est plus sénégalais que n'importe quel autre Français ici.
Il n'a pas de palmarès. Ah, oui. Là, depuis tout à l'heure, j'entends quoi?
Oui.
Il n'a pas de palmarès, il n'a pas de CV.
Oui.
Alors, je vais dire à contrario.
Oui.
L'Égypte, en 2018.
Oui.
Ils sont coachés par Hector Cooper, un CV immense.
Je me rappelle de lui.
Notamment une finale de Ligue des Champions avec Valence.
Exact.
Sans oublier que, regardez, il a entraîné l'Inter et de grands clubs européens.
Ouais.
Il arrive avec l'Égypte en Coupe du Monde. Ils prennent 5-0 face à la Russie, ils sortent au premier tour. Carlos Alberto Parreira, en 2010, champion du monde avec le Brésil en 1994. Il arrive en Afrique du Sud, éliminé au premier tour de sa Coupe du Monde.
Parce que.
Non,
tu es en train de parler d'entraîneurs. Parce qu'ils avaient un super CV chez eux. Non.
Moi, je te prouve ça. Je te prouve ça veut rien dire.
En Afrique. Oui. Parce que l'Afrique.
Donc, quand j'entends certains pleurer, il n'a pas de CV, il n'a pas d'expérience. Non, le football algérien, il faut y faire une chose. Le football algérien, c'est un football de coup d'éclat. C'est un football imprévisible.
Bah oui.
C'est pas, même si demain tu ramènes, d'accord, tu ramènes Ancelotti, Guardiola, est-ce que tu es sûr que l'Algérie va exploser tout en Afrique?
Non, ça.
Ah voilà. Ouais. Donc qu'on arrête de me faire croire qu'il faut un sélectionneur au CV impressionnant. Le football algérien, c'est un football spécial.
Oui.
Alors quand j'entends aussi dire Ziani n'a aucun diplôme. Comment voulez-vous que ce type là coach?
Bah,
qu'est-ce que tu veux faire avec Ziani?
Non, mais au moins qu'il soit dans le staff, on n'a pas dit autre chose. Moi, j'ai pas dit sélectionneur principal, attention.
Oui.
Non, je suis d'accord, moi.
Madjid Fouguerra, à la rigueur, d'accord, moi, je suis pas très fan. Mais maintenant, je veux dire, c'est que Petkovic, il faut se satisfaire de ce que tu as. Nous sommes pas une grande nation de football. Et encore une fois, cela ne garantit pas des résultats.
Ah bah c'est ça.
Parce que tu vas ramener un nom, ça va aller. Vaïd Alilodzic, en 2011, quand il arrive. Il entraînait en Croatie le Dinamo de Zagreb, après se retrouve au chômage. Est-ce que Vaïd, il parle bien français, Vaïd?
Ouais, bah, je connais le français de Vaïd parce que je l'ai interviewé.
Moi, je connais cette langue. Ça fait 50 ans à Mohandis en France.
Oui.
Wahkarbe, il y a un voisin là, il n'y a pas moins de 15 ans.
Oui.
Wahkarbe, 50 ans qu'il est en France. Hein.
Oui.
Bon, là, tu ne comprends pas.
Le pire, c'est que c'est vrai.
Vaïd Alilodzic, moi, je me souviens d'un coach à Levallois, il s'appelait Repsic.
Oui.
35 ans en France. D'ailleurs, il a fait un 16e de finale avec notre équipe en 2001.
Oui.
Éliminé par Ouraska. Wallah, il est passé à téléfoot, tu comprends rien ce qu'il dit. Il y a mon frère, il a été coaché par ce gars-là, il m'a dit tu comprends rien. Et on dirait qu'il parle limite chinois.
Ouais.
Donc Jamel Belmadi, qu'est-ce qu'il connaissait à l'Afrique? Est-ce que Jamel Belmadi avait un CV impressionnant?
Non, Jamel, il est parti directement au Moyen-Orient, hein, il faut le dire.
Mais qu'est-ce qu'il connaissait de l'Afrique?
Au départ, Wallou.
Donc c'est pas.
Non mais Mourad, là aujourd'hui, non, là, écoute Mourad, là, le problème c'est que on est d'accord sur un point. Il y a des échéances. Enfin, sur moi c'est pas ça. Encore, c'est surtout le mois de juin qui m'intéresse. Et le mois de juin,
Exactement.
Et la Guinée, elle vient de faire une belle cam quand même.
Tu veux faire Belmadi, elle m'a dit, il nous a fait je sais pas quoi là.
Ouais.
Il ne pouvait plus continuer.
Ouais.
Et tu vas chercher qui derrière?
C'est
un entraîneur algérien.
Non, mais c'est vrai que sur le marché des sélectionneurs. Non, mais aujourd'hui, est-ce que de toi à moi, est-ce que tu n'aurais pas vu dans le profil de Nasser aujourd'hui, passe-moi l'expression, le meilleur pour lui, qu'on est tous ces garçons, il les connaît, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été opportun de proposer ce chèque plutôt à Nasser qu'à Petkovic?
Bah justement, je voulais poser une question. Vous êtes certainement au courant, vu que vous êtes proche de lui, toi et Sofiane.
Oui.
Sofiane et toi. Je sais que Sofiane tout à l'heure a dit qu'il y a des coachs à qui on a, à qui on a jeté le CV, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont postulé, on a refusé.
En fait,
coach, pas par hasard postulé.
Ouais.
Oui ou non?
Oui, oui.
Je peux te poser cette question.
Juste pour dire que, alors, coach, il était non pas dans la shortlist, mais dans la liste élargie au moment où il cherchait, quoi. Son nom figurait sur la liste.
Non, mais lui, donc, ça veut dire, est-ce qu'il a postulé?
Est-ce qu'il a besoin de postuler comme en tant qu'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie normalement? Bah oui.
Faut postuler à poste, c'est comme un CV.
Oui. Mais ils le connaissent quand même, non?
CV, oui ou non?
Bah, voilà.
Question, est-ce que coach a postulé?
Non mais je ne sais pas, mais est-ce qu'à la fédération ils le connaissent ou pas?
Oui,
c'est ça. Et ils auraient dû.
Le problème, c'est que lui, ce qui pose un problème avec coach. C'est quand il a quitté son contrat, il est parti avant la fin de son contrat, apparemment en avril 2000.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ensuite, il n'a pas toujours été très tendre avec les dirigeants de la. Avec les dirigeants du football algérien.
Ouais.
Donc, est-ce qu'ils n'ont pas une petite rancœur?
Peut-être.
Voilà, coach, est-ce qu'il ne s'est pas mis une balle dans le pied en étant en cash?
Ouais.
Maintenant, coach, oui, par rapport à ce qu'il a montré en 2000. Je pense qu'il aurait pu au moins être adjoint, mais je sais que la dernière fois il était hors de lui.
Ouais, oui.
Je pensais à lui comme adjoint.
Oui.
C'est bien d'avoir confiance en soi.
Ouais.
Maintenant, moi personnellement, entre coach Sonja qui est Vladimir Petkovic, c'est du 50-50. Hein.
Voilà, ouais, au moins
c'est.
Le
problème, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas drivé aussi une grande sélection, une équipe professionnelle.
Oui.
Depuis 2000, il a toujours été à Noisy-le-Sec. Enfin, il a entraîné
l'Algérie. Et le Mobus,
il a entraîné au Maroc.
Ouais,
mais, mais ça fait plusieurs années, là. Ça fait 5-6 ans qu'il
ne
coache plus, quoi, à part
À nous. Enfin, entre nous, il est quand même formateur ici.
Voilà, je l'aurais plus vu à la DTN.
Ouais, voilà. On a toujours pensé à lui à la DTN, c'est vrai. Merci à moi, là.
DTN, ça aurait été intéressant.
Ouais, ok, merci.
Voilà, ça fait que ça donc la semaine prochaine,
il y a le début du ramadan, on va l'annoncer, donc ça va être un peu compliqué, mais avec Nabil, on va trouver un compromis pour trouver un moment où l'émission, on va la faire. Je ne sais pas comment, mais on va trouver le compromis. Merci, ça arrête. Oui. Voilà, je prends un dernier appel. Hein. Allez, bonsoir. Allô.
Allô.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir,
arrêtez
de pas
noir. Ouais, mets-toi bien sur le ton combiné parce que là j'entends très mal. Vas-y.
Allô.
Ouais, vas-y, reste, je t'écoute là. Ouais.
Alors, concernant le nouveau coach, je voulais juste poser des questions par rapport à l'ancien coach. Est-ce qu'il avait un CV déjà avant qu'il arrive à diriger l'équipe nationale?
Tu parles de Jamel?
De Jamel, oui.
Le CV. Oui, il l'avait avec le club du Qatar, oui, quand même, il a gagné.
Du Qatar.
Il n'avait pas de CV.
Et par contre, il touchait un salaire d'un grand entraîneur.
Ben oui, parce que quand il est au Moyen-Orient, les salaires, on les versait les yeux fermés.
Non, mais même en équipe d'Algérie, même en équipe nationale, il touchait un grand salaire quand même.
Ah oui. D'ailleurs, le salaire de Petkovic, c'est aujourd'hui la moitié. De Belmadi, bien sûr.
Exactement. Ouais. Sauf que quand on parle de Belmadi, on dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde, alors que lui, il a gagné une Coupe et une canne.
Ouais.
Dans le
CV de Jamel, c'est, on va le dire comme ça, c'est la deuxième étoile pour l'Algérie. Cette deuxième étoile a été ramenée par Jamel. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Au-delà des échecs répétés et successifs, c'est ça qu'il faut dire. D'accord.
Oui, il a gagné, mais il n'a pas gagné la CAN tout seul.
Oui.
Un entourage, une fédération qui était solide à l'époque.
Non, puis il y avait aussi un staff technique avec lui, homogène. Bien sûr.
Avec son adjoint, un manager général.
Oui.
Il y avait une équipe.
Ouais.
Une équipe.
Voilà.
Il n'y a pas que lui. Bon. Là, maintenant, pour ce nouveau entraîneur, la différence qu'il y avait sur l'ancien contrat de la fédération, c'est que là, il y a des objectifs.
Ah oui, oui, oui. Non, mais là, c'est clair et net. Là, on parle objectifs. Que ce soit au niveau de laquelle ou de la Coupe du Monde, maintenant, comme on dit, il faut faire très vite parce que, tu sais, les jeux, les dates FIFA, tout ça, ça tourne très vite, hein. OK?
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Sauf que là, maintenant, sur le nouveau contrat avec le nouveau coach, c'est qu'il y a des objectifs. Ouais. Même si le huitième de finale, ça paraît un petit peu, pour nous, c'est
rien.
Il ne faut pas oublier qu'on est sorti deux fois d'affilée au premier tour.
Ouais, oui, ça,
l'entraîneur, il ne va pas dire, je vais gagner la prochaine Coupe d'Afrique.
Non, mais là, c'est le Maroc qui se prépare pour ce qu'il organise. Quand on dit le Maroc, il faut savoir que la dernière fois que le Maroc a gagné une Coupe d'Afrique, ça remonte à 1976. Ça fait un bail. Ils ont perdu une finale en 2004 en Tunisie contre la Tunisie. D'ailleurs, à cette époque-là, ils avaient battu l'Algérie en quart à 3-1 avec un certain Youssef Hadji, je me souviens. Mais là, aujourd'hui, le Maroc rêve quand même de gagner cette CAN parce que même s'ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, dans le palmarès CAN, ils n'ont qu'une étoile, les Marocains, tu vois.
Je t'assure qu'ils auront le même problème que nous. Ils auront le même problème que nous. Leur coach Agui, c'est la photocopie de Jamel Belmadi.
C'est des garçons qui.
C'est la même chose. En fait, c'est des entraîneurs qui ont récupéré une équipe qui jouait bien, etc. Elles ont gagné, ils ont fait ce qu'ils ont fait. L'Algérie, ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Les Marocains sont allés jusqu'en 2000
finale.
L'année après.
Eh bien, maintenant, on espère qu'une équipe africaine arrive en finale cette fois-ci. Allez, c'est fini. Merci,
Arsky. Merci,
ça arrête à moi. Ça arrête, ouais. Allez, on marque une courte pause pub et on va parler d'un autre sport.
Faux de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM. Plus qu'une radio.
Voilà, on va revenir sur terre, on va souffler un petit peu, mais pour parler de sport un peu plus musclé, un peu plus coriace, mais pour cela, il faut des champions en plateau. Et ben, lorsque notre ami Boula m'avait proposé, j'ai dit, il n'y a pas de souci, on fait ça. Donc, l'invité de ce dossier de foot de sport, c'est Léon Derek.
Les dossiers de foot de sport.
Bon, merci messieurs d'abord d'être venus là sur le plateau de foot du sport. C'est vraiment un plaisir parce que j'ai toujours présenté des émissions comme ça. Je vais même vous dire que j'ai commenté des combats de boxe. Bon, ça remonte à longtemps, hein, mais j'étais carrément en première loge pas loin du ring et ça permettait de voir l'intensité des combats, parce que quand on voit la télé, ok, on voit, mais je vous garantis que quand vous êtes comme ça, la première rangée, c'est très, c'est sympa. D'abord, la vitesse, ensuite, on entend les coups, ça c'est impressionnant, et puis on se dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Alors que les boxeurs sont sur le ring, c'est un combat, mais nous qui sommes, on va dire, à la première rangée ou à la deuxième, on a plus peur pour eux que eux ont peur pour les autres. Bon, Léon, bonsoir.
Ouais.
C'est ouvert, Léon. Ouais.
Alors, bonsoir à tous les chers auditeurs de Beurre FM. Ouais. C'est
Merci.
Un plaisir d'être avec vous ce soir.
Donc, Léon, je précise, toi, tu es le coach de...
Du Derek, oui, de Salman.
Ouais.
Oui.
D'accord.
Et beaucoup tant d'autres depuis longtemps.
Tu as combien actuellement de boxeurs sous ta coupe?
Alors, actuellement, là, comme c'est un sport, c'est des cycles, faut savoir.
Oui.
Au Derek, à l'époque, on a eu jusqu'à presque 200 adhérents.
Ah oui.
Et il y avait toute une multitude de champions qui sont passés. c'était la Ferrari dans la boxe pratiquement dans les débuts. Bon, faut savoir que les premiers ici là, c'était chez Roger Pachy.
Oui.
C'est l'importateur du Muay Thai en Europe en fait. Et après, il y a eu des élèves chez lui pendant d'innombrables années. Et après, ce premier faisceau là a éclaté, qui a donné plusieurs autres clubs, dont le Derek Boxing. Il y a eu Lumpini. Mmh. Il y a eu plein d'autres clubs qui sont formés, qui sont tous des élèves de Roger Pachy. D'accord. Ils ont tous ouvert des clubs ensuite, et puis etc. quoi. On était
C'est quoi votre travail, Léon, du coup? Est-ce que c'est d'aller chercher les talents principalement dans les quartiers? Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, pour s'en sortir, on se dit, j'ai choisi un sport. Alors, comment votre sport arrive-t-il à capter cette jeunesse? Parce qu'il faut être à la force de l'âge pour faire ce sport.
Bien sûr. Ouais. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, bon, c'est assez connu. Ouais. Mais à mon époque, c'était vraiment un sport qui était interrogateur. Ouais. Parce que les gens ne connaissaient pas. Moi-même, je connaissais l'anglaise. Oui, tout le monde y connaît.
La plus classique, bien sûr.
La boxe française. Ouais. Après, il y a eu la boxe américaine. Mmh. Mais j'étais dubitatif quand j'ai vu la boxe thaïlandaise la première fois. Moi-même, venant du football, c'était tout par hasard que je suis arrivé. Parce qu'il y avait les frères Desjardins qui ont été chez Roger Pachy. Et après, quand ils ont arrêté leur carrière de boxeur, ils ont naturellement ouvert leur club, comme a fait le Lumpini, Sam Berandou. Après, il y a eu le Nemrod. Il y avait Kuder aussi, à Nanterre. C'était voilà les clubs qui se tiraient la bourre, quoi. Voilà.
Et ça attire beaucoup.
Oui, oui, oui. Et c'est par hasard. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent, ils savent ce que c'est la boxe thaï, puisque ça a été vraiment médiatisé. Mais à notre époque, c'était vraiment un sport nouveau et c'était interrogateur. Et tout le monde venait s'y essayer. Les gens, ils arrivaient par différents biais. Moi, venant du football, ça m'a interrogé.
Ben oui.
Je regardais, j'étais curieux. D'ailleurs, au début, je voulais pas faire de boxe. Je venais pour la fin, pour faire la culture physique. Parce que c'était vraiment très, très physique comme sport.
Ah, oui.
Et moi, cherchant à changer de club, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut pour aller pouvoir faire pour aller dans un autre club.
Oui, à la fois... à ce moment-là, tu étais dans le combat, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et pour montrer que tu as gravi les échelons, il faut aussi passer par des clubs encore plus huppés.
Bien sûr, c'est ça, ouais.
Ben oui.
Et vraiment, c'est... Après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment connu. Et c'est en bas de la cité... Et c'est un sport qui est bien parce que voilà, surtout dans les banlieues, pour éviter aux jeunes de faire des conneries. Et c'est encore plus vrai au jour d'aujourd'hui par rapport à la vie qu'on a au jour d'aujourd'hui, avec les familles monoparentales, les jeunes. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de valeurs, ça part dans tous les sens. Même des familles, entre guillemets, qui sont bien. Les jeunes, quand ils sont avec leurs copains, leurs amis, il y en a d'autres qui ont l'avantage, qu'ils arrivent toujours à les dérouter pour aller faire des conneries. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on commence beaucoup plus tôt, puisque maintenant, ça commence à l'âge de 7 ans.
Ah oui.
Les petits garçons, les petites filles, et c'est vraiment merveilleux, quoi. Ça.
Comment on arrive à se faire respecter quand tu me parles un petit peu de ces difficultés des enfants des cités qui parfois sont perdus parce que ils n'ont pas trouvé le bon guide au bon moment?
Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs ça nous fait rire maintenant, parce que quand on les voit arriver au début, qui sont un peu perturbés, turbulents, ils se croient toujours, voilà, dans la cité.
Les gros
chefs. Ils jouent les durs et oui. tout. Mais quand ils arrivent au sein du club Derek Boxing, ils trouvent vraiment, voilà, il y a toute une manière de faire. Ils savent très bien qu'ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui restent, en tous les cas, ben, voilà, ils rentrent dans le droit chemin. On leur inculque les valeurs. Nous étant passés déjà par là et au jour d'aujourd'hui encore plus avec les enfants qui sont tout seuls avec leur maman ou leur papa et voilà, il leur faut un guide.
Alors c'est un sport qui devient populaire. Est-ce que, par exemple, pour ces familles qui n'ont pas suffisamment de moyens, c'est un sport qui est facile d'accès, notamment en matière d'acquisition de licences, etc. Et tout. C'est très important.
Oui, bien sûr. Et nous, justement, par rapport au club Derek, ben c'est une famille. D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un dans le quartier là. En cherchant à se garer, qui est Béchir. C'est un ancien du club. Et vraiment, oui, parce que les frères Desjardins, en ouvrant leur club au sein des 4000, c'était pas...
La Courneuve, il faut dire.
Voilà, la Courneuve.
Les 4000,
c'était
la Courneuve,
pas n'importe quoi. Ils savaient très bien, justement. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils ont voulu ouvrir leur club au sein des 4000. En se disant que voilà, par rapport à ce sport, par rapport à la vie environnante, par rapport à tout ce qui se passe, que ça va faire voilà un chemin pour ben tous les jeunes qui sont là, qui sont un peu débordants d'énergie et voilà, qui sont souvent des fois livrés à eux-mêmes, de connaître ce sport, ça va leur donner un chemin. Et une manière d'être,
de se construire dans la vie.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et ce sport-là qui est très très dur, qui vient d'Asie, qui vient de Thaïlande, et qui est l'issue de sortie aussi là-bas, en Thaïlande, c'est leur sport national, c'est tout pour eux, mais aussi c'est une porte de sortie, comme l'est le football au Brésil et dans d'autres pays. Ouais. Voilà, donc voilà quoi, c'est.
Mais pardonne-moi, Léon, dans ce sport, qui faut-il convaincre, les enfants, les familles, les autorités, parce que il faut déjà disposer à minima d'un local, d'une salle, pour accueillir ce public. Comment se passe la démarche? Pour ouvrir ou pour démarrer un club notamment.
D'accord. Alors à la Courneuve en tous les cas, comment ça s'est passé? Il y a les frères Desjardins qui ont fait ce sport et à la fin, bon, ils étaient étudiants et ils ont arrêté la compétition. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire quelque chose chez nous? C'est un sport qui va comme un gant à la banlieue, sachant ce qui se passe. Donc, ils ont été en mairie et pour demander un espace au sein d'un gymnase. Et croyez-moi, au début, c'était pas gagné. Hein. C'était très, très difficile car ce sport, il n'était pas du tout connu et il était même mal vu, je vais dire. Parce que bon, c'était interprété comme un peu un sport de voyous, un sport
violent, dur, ça
voilà, violent, trop violent. Les gens, ils pensaient qu'il n'y avait même pas de règles. Quand ils voyaient, ils connaissaient la boxe anglaise, la boxe française, dire oui, mais c'est quoi ce sport? On attrape la tête, on donne des coups de genoux, il y a des coups de coude. Les gens, ils ne comprenaient pas. Mais bon, par la force des choses, ça s'est installé. Mais il a fallu qu'ils soient convaincants. Ils ont eu du mal à...
À tel point aujourd'hui, Léon, qu'on le voit maintenant sur les chaînes de télévision.
Voilà.
Il y a des soirées spéciales,
voilà, c'est ça.
Combat et tout. Principalement, samedi soir ou le vendredi soir, il me semble déjà au niveau télé. Même les grands groupes aujourd'hui qui s'y intéressent.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a des champions qui sont partis de France en Thaïlande
sur
une formation, revenir aujourd'hui titiller les meilleurs mondiaux. Quoi.
Bien sûr, exactement. Et même des Français qui sont installés carrément en Thaïlande et qui sont dans le championnat français de Thaïlandais, qui sont reconnus. Donc maintenant, bon, ça fait des années, le sport il est tellement connu. Il y a des films où il y avait des boxeurs qui étaient dans le film. Bon, il y a notamment Dida qui était au club. Qui était connu, qui était un grand champion, qui a fait deux films qui s'appelaient Choc D avec son ami Van Damme. Donc voilà. Maintenant, tout le monde y connaît la boxe thaï au travers du cinéma, etc.
On peut dire qu'elle s'est démocratisée ?
Oui, ça s'est énormément démocratisé. Parce qu'il y a plein de comédiens. Connus qui pratiquent la boxe thaï. Moi-même, c'est arrivé qu'on entraîne des comédiens au club connus.
Ouais,
et voilà, il y a beaucoup. Par exemple, au club, il y a un boxeur qui s'appelle Joël César, qui est un très, très grand champion. Et qui entraînait Pascal Obispo.
Ah oui.
Et son fils et sa femme. À l'époque, nous, au club, on a entraîné Samuel Le Bihan, que je salue d'ailleurs. Et plein d'autres, des comédiens qui font du théâtre et tout ça. Il y en a beaucoup qui ont des coachs personnels maintenant qui les entraînent en boxe thaï.
Et pourquoi ? C'est le but, il est où
Parce que c'est un sport qui est...
Entre le cinéma, justement, et voilà. Cette boxe thaï.
Parce que c'est un sport qui est explosif.
Ouais.
C'est un sport qui procure beaucoup d'assurance après, quand on le pratique. Les gens qui sont un peu nerveux, des gens qui sont un peu, dans la vie, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ça donne du caractère. À force qu'on s'entraîne, ça procure une sorte de carapace comme ça, de l'assurance, ça donne beaucoup de choses, ce sport-là. Parce que il est tellement poussé au bout de soi-même que la personne qui pratique et qui tient en tous les cas dans ce sport est obligée de changer.
Parce que quand on finit, par exemple, ou un combat, ou même un entraînement, on finit littéralement exténué.
Ah oui, franchement.
Et la seule idée, c'est de ne pas faire le voyage, de rentrer chez soi et de passer une nuit de sommeil.
Exactement. On recherche que prendre une bonne douche, s'alimenter et aller dormir. Ouais. Tu ne penses pas à autre chose. Et c'est pour ça qu'il est super, ce sport. Des gens qui sont un peu turbulents, des gens qui sont un peu... comme les enfants là, surexcités, hyperactifs, quand ils rentrent dans ce sport-là, ils rentrent dans le chemin et ils sont calmes.
C'est aussi un sport qui réclame une certaine hygiène de vie. On peut pas pratiquer ce sport en étant désordonné dans sa manière de se nourrir, de travailler ou même au niveau du sommeil. On passe pas son temps sur les consoles de jeux pendant 10 heures, je sais pas moi.
On le voit, au début, les gens qui arrivent, qui pensent que voilà, ils vont arriver, ils vont tout casser, mais ça les change totalement. Il y en a qui jouent les durs, mais bon, quand ils se rendent compte de où ils ont mis les pieds, ça les change totalement. Et il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui sont là, qui rentrent et qui se disent, ouais, moi je vais tout casser, je vais faire ci. Mais ceux qui restent, en tous les cas, dans ce sport, ça les change. Obligatoirement. J'ai jamais vu un qui arrive, qui est désordonné, qui est un peu sauvage, qui est machin, et qui n'a pas changé. Impossible. Et c'est d'ailleurs ça, cette beauté, qui fait que on reste dans ce sport. Parce que il y en a qui ont connu beaucoup de délinquance, il y en a qui étaient des petites pointes, comme on dit, qui faisaient beaucoup de conneries. Et par rapport à ce sport-là, ils sont rentrés, non pas entre guillemets qu'ils soient devenus des anges, mais ils sont rentrés vraiment de plein pied dans la vie, beaucoup de respect. Et c'est ça qui est beau dans ce sport-là.
Alors moi, ce que j'admire dans ce sport, c'est forcément le côté souplesse, ce qu'on appelle, on n'est pas dans les gros bras, on est dans le muscle fin, Même s'il y a ce qu'on appelle les fameuses catégories des super lourds, moi je les vois, ils ont une telle agilité pour des géants, et je me dis,
ils sont très agiles. Hein,
c'est exceptionnel quand même.
Ouais. C'est un sport qui est hyper complet, qui demande beaucoup de choses. Ça veut dire que il faut de la force, il faut de la finesse, il faut de la souplesse, il faut de la résistance. Il faut être opiniâtre, il faut
le cerveau.
Oui, et c'est hyper tactique.
Ouais.
Il y en a, ils se disent, moi, je suis fort, j'ai des gros bras, je suis dur, ça va aller tout seul. Non, c'est un sport qui est hyper technique. Il faut de la malice, et il faut l'opiniâtreté, il faut être résistant. Parce que il y en a, ils commencent à 200 à l'heure, et puis en plein milieu, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'essence, quoi. Et là, quand ça, c'est comme j'appelle ça Pac-Man.
Oui.
Au début, t'attaques et tout, mais si t'arrives au bout, t'as plus de, voilà, c'est toi qui es là.
Carburant,
la
là.
Voilà,
oui.
C'est ça. Exactement.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce genre de sport, on a affaire quand même à des individus qui travaillent beaucoup la condition physique. Je pense que sans la condition physique, on ne peut même pas tenir un
sport
round.
Là, la condition physique, c'est obligatoire. Sinon, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Même les Thaïlandais eux-mêmes, qui sont hyper techniques, c'est leur sport. Ils connaissent très bien, mais il faut la condition physique. Parce que si tu l'as pas, même, on va dire vulgairement, même une pomme de terre, arrive à un moment, il va prendre le dessus et tu vas être mal. Donc, il faut être très, très complet. Il faut la condition physique. Il faut le cerveau, bien sûr, parce que c'est un sport très malicieux. Les gens, ils voient un sport explosif comme ça et pensent que avec la force, ils vont s'en sortir. Non, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation et d'intelligence. Et ce sport-là, il est hyper cérébral.
On parle tactique, on est d'accord.
Hein. Ah oui,
ça veut dire que
technique, bien sûr.
Oui, tactico-technique, et ça s'apprend.
Ouais.
Et ça veut dire que tu vas apprendre, tu vas pratiquer cette boxe. Mais derrière, si tu n'as pas l'expérience d'un technicien qui va t'apprendre les
signes, une recherche, un développement.
Ouais.
Tactique.
C'est les subtilités de
ah oui, bien sûr. Hein, tout n'est pas misé sur la force. Hein,
ouais.
Parce qu'il y a des gens, vous allez être plus fort qu'eux physiquement, mais ils ont une telle technicité et tactique, ils vont finir par vous avoir. Mmh. C'est obligatoire. Donc on est obligé d'aller loin dans son cerveau, des fois pour s'en sortir. Ah oui, c'est...
Très bien, on va marquer une pause dans cette émission, puis je vous retrouve dans un instant, parce que c'est vraiment un sujet très passionnant en discussion. Et puis je me rappelle même, c'était même peut-être un petit peu avant l'affaire du Covid, où je faisais justement beaucoup d'émissions, où je recevais pas mal d'invités qui me parlaient notamment du Muay Thai, hein, quand c'était organisé notamment ici du côté de Bercy, il me semble.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Bon, Léon n'est pas venu tout seul. Il est accompagné de Roméo, qui est aussi un adhérent de ce club, hein, du Direct Boxing. Boxing.
Ouais.
Bon, Mario, bienvenue. Comment t'es arrivé chez Léon?
Bonsoir à tout le monde. Donc moi c'est Roméo, donc oui, le Muay Thai. Alors j'ai commencé le Muay Thai au gymnase de Reims dans le 17e chez Gabriel Lamy.
D'accord.
J'étais étudiant. Donc c'était une discipline que j'ai découvert après le karaté. Et à l'époque, j'ai eu la chance de connaître justement cette génération à mon coach Pape Léon.
Ouais.
Où il y avait encore justement ces échanges sans protection. Il y avait l'amour du Muay Thai, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent, une petite parenthèse, parce que c'était devenu tout, on va dire, le sport est devenu un peu commercial.
Oui.
On ne veut pas citer tous les sports.
Oui, parce que ceux qui investissent ont besoin de voir des images à travers la télévision, puisque les télévisions payent aujourd'hui.
Je parle uniquement, voilà, exactement, pour protéger le Muay Thai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le Muay Thai, c'est pas le sport qu'on devrait étiqueter comme cela se passe, par exemple, quand on dit quartier ou quoi que ce soit.
D'accord, ouais.
C'est plus un sport quand vous rentrez dedans, c'est vraiment de l'art. Donc c'est un équilibre mental. Ça vous apporte énormément dans votre vie personnelle, dans votre entourage, les amis, et puis la sagesse surtout. Et donc ça vous performe dans votre vie, quoi. Donc oui, j'ai commencé chez l'ami qui m'a ensuite dirigé au Derek Boxing
chez Léon.
Chez mon coach Léon. Ouais. Et donc j'ai eu ma petite expérience à l'époque quand j'étais étudiant d'être entraîné justement par Léon.
Et comment tu arrives à joindre les deux entre les études et justement les entraînements chez Léon?
Bah, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup apporté dans mes études, de part parce que j'avais besoin de me dépenser.
D'accord.
Donc j'étais aussi beaucoup dans le footing, je faisais énormément de cardio, et j'avais besoin aussi de ce
très actif peut-être.
Et, voilà, et j'ai connu justement, j'ai eu la chance d'apprendre la boxe thaïlandaise, et j'en ai eu par ma propre expérience. J'ai voulu aller en Thaïlande en 2011 et partager justement ce sport-là, culturellement parlant. Pourquoi? Parce que pour être bon dans un sport, il faut aussi connaître un peu et partager en fait l'environnement. Ouais. Donc je me suis dit, si pourquoi j'arrive à m'attacher à ce sport, j'ai besoin de savoir pourquoi en fait pourquoi j'ai pas accroché à une autre discipline, et pourquoi ce sport. C'est tellement, il faut l'exercer pour le comprendre. C'est pas, j'ai aucun titre mondial, hein, je suis pas là pour faire.
Non, mais en fait, c'est
voilà,
juste que tu as
vraiment voulu, je partage ce côté émotif.
Oui, on est d'accord.
Et j'ai eu justement cette accroche là. Et j'ai été en Thaïlande, je me suis entraîné comme les pros. J'ai eu la chance aussi de faire un petit combat. Bon, j'ai pas duré longtemps, ça a duré 3 rounds, je suis tombé KO.
D'accord.
Mais j'avais envie de vivre.
Ouais.
Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment thérapeutique.
C'est une manière de vivre.
C'est de l'art, ouais. C'est...
On dit que un enfant thaïlandais, dès sa naissance, il apprend ce fameux sport.
Ah ouais.
C'est des gens qui sont très souriants, qui sont très calmes, mais il ne faut surtout pas les provoquer.
Ah oui.
Garçons ou filles pratiquent ce sport et ils sont capables d'apporter une réponse très très costaud.
C'est vrai, je confirme.
Ouais.
C'est le sport national. Hein. C'est tous les gens, tous les Thaïlandais, que ça soit un vieux d'un certain âge, tout petit comme ça là, tout le monde connaît. C'est vraiment leur sport national. C'est une manière de vivre, de penser, de se mouvoir. De voilà, c'est un sport vraiment extraordinaire. C'est et la vie de la Thaïlande est régie par ce sport-là, parce qu'il y a des grands stadiums, il y a des paris, beaucoup de paris sur ce sport-là. Et dans toutes les familles, il y aura toujours deux, s'ils sont 7 ou 8 enfants, ou 2 ou 3 ou 4, il y en aura toujours un qui va aller faire la boxe.
D'accord.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein. Malgré ça s'est modernisé, tout ça, c'est très très difficile. À l'époque, c'était pour s'en sortir, c'était des familles pauvres, toujours au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent de bonnes familles et qui vont pratiquer quand même la boxe thaï. C'est une fierté.
Et un besoin pour un équilibre personnel.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça colle vraiment à ce pays-là.
Et d'ailleurs, on le dit bien, boxe thaï.
Ça
colle au pays.
Voilà,
Parce que la Thaïlande, c'est Phuket, hein, on est d'accord, c'est tout ce qui est côté Maldives. Mais là, non, on parle d'un sport.
Ouais. Et d'ailleurs, ça veut dire boxe libre. Parce que, comment c'est arrivé cette histoire-là? La Thaïlande était toujours annexée par les Japonais, les Chinois, voilà. Et un jour, comme ceux qui étaient faits esclaves, ils n'avaient pas droit aux armes. Ils n'avaient rien. Et un jour, il y en a un qui a essayé de se sauver. Et vu qu'il a été rattrapé, ils étaient plusieurs, qu'ils avaient des bâtons, des différentes armes, blanches et autres. Et lui, l'idée qu'il a eue, il s'est dit, je vais pas retourner. Il faut que je fasse tout, mais il faut que je m'en sorte.
Oui.
Il a eu l'idée de servir de ses coudes, des genoux, des tibias, et il a réussi à vraiment les titaniser et se sauver. Et lorsqu'il est arrivé là-bas au pays du Siam, Et ils l'ont laissé quelques jours pour récupérer et tout. Ils ont été stupéfaits. Et ils lui demandaient, mais comment tu as pu te sauver sans armes, sans rien? Donc lui, il a expliqué ce qu'il avait fait pour terrasser ses ennemis. Et c'est comme ça que c'est parti.
Et ce un fut, sport de pauvre voilà, qui est devenu aujourd'hui voilà, mondialement
voilà,
connu.
Voilà. Et après, ils étaient obligés, tous les Thaïlandais, le roi à l'époque, il a eu cette idée-là d'instaurer ça dans les écoles, à l'armée, la police, les paysans. Et c'est comme ça que ce sport s'est développé, qui est devenu le sport.
Il y a une vraie volonté politique.
Ah oui, 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 ouais. Oui, bien sûr. Hein, c'est, voilà.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez les Thaïlandais, peut-être même jusqu'à nos jours, dans ces fameux corps d'État, même à l'école, les cours de boxe thaï existent toujours.
Ah oui, oui, mais la police, ils font de la boxe thaï, l'armée, encore plus, dans les écoles privées, que ce soit à la campagne, à la montagne, en ville. Partout où vous irez, il y aura la boxe thaï. C'est pas possible d'être dans un endroit sans qu'il y ait de boxe thaï. Et ils sont très fiers de leur sport. Hein. C'est bon. Dans les pays adjacents comme le Vietnam et d'autres pays, ils ont deux sports et ils sont toujours à essayer de.
C'est ça. Dans ces fameux sports de contact.
Voilà, c'est ça. Vrai. C'est
parce ça. Que ce soit le Vietnam, le Cambodge, le Laos,
tout ça.
C'est ça, exactement. Ils ont tous des petites spécificités, mais il y a une base commune qui est
mais
le contact.
Mais ils vont toujours se défier pour dire, nous, on est les meilleurs, les Viettes, avec les Laotiens, les Khmer, Et ils ont des similitudes dans tous leurs sports, hein, que ce soit les Vietnamiens, les Khmer, les Laotiens. Mais ils ont toujours des sports de combat magnifiques. Voilà.
Mario, toi qui as été là-bas en Thaïlande, tu m'as parlé de l'histoire de ton combat. Bon, tu l'as perdu avec fierté. Tu vois quoi là, chez ces boxeurs? C'est quoi? C'est la rapidité, c'est l'agilité ou c'est l'aspect tactique pour descendre un adversaire? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont au-dessus?
Ah non, mais c'est un sport ancestral. Ils ont des bottes secrètes. Nous, on va, les Européens et le reste du monde, on va aller en Thaïlande. Ils vont vous entraîner. Ils vont être fiers que vous fassiez partie du camp. Mais je pense qu'ils ne vous feront jamais voir toutes les bottes secrètes. Il y en a toujours qui vont garder pour eux, les Thaïlandais. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein.
Oui.
Et puis, comme c'est un art ancestral, il y a des secrets.
Oui.
Ils ne vont pas tout divulguer. Hein. Ils ne feront jamais tout voir. Hein.
Puisque Léon, tu as eu aussi l'occasion d'y aller là-bas, tu as rencontré des maîtres.
Oui. Ben, moi, j'ai été d'innombrables fois en Thaïlande. On a été dans différents camps. Et bon, à mon époque, là, c'était vraiment difficile. Hein. Pour tenir dans les camps. Et maintenant, ils ont la clim, ils ont des chambres avec tout ça. Mais à mon époque, c'était pas ça. On dormait par terre, il y avait des rats. C'est vraiment dur. Hein. La première année qu'on a été, c'est avec le club, c'était en 1985.
Ah oui, quand même.
Et croyez-moi, on en a vu des choses. Ah, c'est un sport extraordinaire. Et je vais en profiter pour faire la pub du club aussi.
Mais c'est normal. Voilà, t'es cuit sur
le club du Derek Boxing, qui a vraiment une team. C'est vraiment une famille. Les frères Desjardins, René Antoine ont créé le club avec à l'époque. Comment on s'appelle, les deux frères. Et lorsque ils ont commencé à partir, ils nous ont transmis le flambeau. Donc après, on a repris le club. C'était les anciens. Il y a Larsen Brigui, il y a Joël César. À l'époque, qui ont repris le flambeau, et moi-même. Après, il y a eu des gens comme Scalp, il y a eu d'innombrables champions. Il y a des gens comme Nikema, Joël César, Scalp, Larsen Brigui, Kamel Mayouf, je sais que je vais en oublier. Oui, c'est bon, pour ça que
voilà. Déjà, on cite quelques-uns. Voilà, c'est bien.
Bien sûr, c'est. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, bon, il y a eu d'autres champions qui a eu comme Grégory Choplin, mais il y a eu des stars. Vraiment,
Youssef Sid aussi.
Youssef Sid
aussi. Face à Sami Sala.
Voilà, il y a Totov, il y a Christian Garros, il y a eu d'innombrables champions. Khaled Ebieb, le premier champion au club, c'était Khaled Ebieb. Le premier qui a été champion de France. Après, ça a suivi les SCAP, mais il y a même mon petit frère Claude, Larsen, et Antoine Desjardins qui est toujours là, un des créateurs du club qui était parti mais qui est revenu par la suite.
Il y a quand même l'amour du club, Léon. En gros, quand on a la fibre comme ça,
ah oui,
parce
non.
que j'ai l'impression que c'est un club de famille. Du
ah
coup,
oui, oui, le ouais. club d'Eric Boxing. Ouais. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Il y a des gens que c'était la Ferrari dans la boxaille. Hein. Il y a des gens qui à l'autre bout de la France, ils ont eu l'idée de travailler pendant par exemple un an,
oui.
faire des économies et venir pour s'entraîner au Derek. Dormir dans une voiture, c'est extraordinaire. Hein, et à l'époque, tous les gens qu'ils avaient un combat difficile, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, ils venaient s'entraîner au Derek automatiquement. Parce qu'on avait tellement atteint un niveau tellement dur. Et voilà, les gens, ils étaient obligés de venir se frotter aux gens du Derek pour être sûr qu'ils vont être très très bien préparés.
Bon, combien coûte une licence ?
Pardon ?
Combien coûte une licence ?
Au jour d'aujourd'hui.
Je ne parle pas des sportifs confirmés.
Au jour d'aujourd'hui, l'adhésion au club, c'est. Pour un adulte, c'est 230 euros.
Par an.
Par an.
Oui.
Avec plusieurs entraînements. Il y a le lundi, mercredi, jeudi.
Ah, quand même.
Et là-dedans, il y a le samedi aussi. Il y a les mercredis, vendredis. Donc, il y a plein de coachs. Il y a, on est 7 ou 8 coachs diplômés d'État.
Ouais.
Bon, il y a Joël César, il y a Larsen, il y a Claude Mendy, il y a Mocha, il y a Christophe, il y a Rémi, il y a Antoine, et moi-même. Donc, il y a des coachs diplômés d'État défrayés. Ouais. Donc, quand on fait des entraînements comme ça toute la semaine, c'est pas évident.
Bon, et moi, j'imagine un coach ouais. qui fait ça toute la semaine,
ouais.
tous les jours, ouais. 12 mois sur 12.
Oui, et en plus, bon, c'est pas le travail, hein,
ouais.
parce que c'est une association, ouais. c'est à but non lucratif, loi ouais. 1901, mais quand même, tous les soirs, on est là de 18h jusqu'à 22h.
Ah, quand même.
Donc, surtout maintenant, il y a les tout petits.
Ouais.
Ben, j'en profite pour faire un gros bisou à la secrétaire, à Nini. Voilà. Et sans oublier Double No. Je vais sûrement oublier des gens, mais qui m'excusent, hein, vous savez.
Ouais, de toute façon, il nous reste deux minutes pour voilà. finir.
Vous avez un micro devant le nez, vous oubliez beaucoup de choses après.
Non, mais c'est juste dans le cœur. Ouais. Voilà, tu peux le dire. Toutes les personnes que tu as oubliées. Éventuellement, ça peut être la famille, ça peut être les amis, le club et tout.
Voilà, voilà.
Tous les adhérents, déjà, pour commencer. Ouais.
Déjà,
ouais, voilà.
je dis bonjour à tous les adhérents, sans faute, les parents, tous les anciens qui sont passés au Derek, voilà. Mon cœur, il est avec eux, et puis voilà.
Aussi.
En tous les cas, franchement, j'ai passé un moment très agréable avec vous deux, Léon ouais. et Mario.
Oui, il va y avoir sûrement comment ça s'appelle, gala.
Alors,
je sais qu'on va faire, fêter
le prochain.
Les 10 ans du Golden Fight vers le mois de juin.
D'accord.
La date n'est pas établie encore et puis voilà. Il y aura des Golden Challenge. J'en profite pour saluer la ville de La Courneuve qui nous donne pas mal de moyens. Et je remercie Gilles Pou, le maire, Stéphane Trussel et tous les élus qui
ont cru au projet parce que
ouais.
Aller faire ça aux 4000,
ouais, voilà, c'est déjà ça, c'est vraiment
une grosse idée, mais il fait ça.
Au début, c'était pas gagné, c'était pas gagné du tout. Ouais. C'était vu du coin de l'œil. Ouais. Et après, bon, nous aussi, avec tout ce qu'on a fait, le club, on a prouvé aussi que voilà, c'était pas du n'importe quoi. Et voilà. Et j'essaie de rappeler au maire pour. Le voyage en Thaïlande, hein, j'espère que cette année ça va se faire, parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant. Ouais. Et j'embrasse tous les gens de la Cournac. Merci.
Merci. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un format différent là pendant le Ramadan. En tous les cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Beurre FM.
Retrouvez Fou de Sport tous les dimanches de 18h à 20h avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.